France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour, bienvenue à tous dans les midis de culture. Nous voilà ensemble pour 1h30 d'actualité et de culture. À 13h, je recevrai l'auteur de bande dessinée David Prudhomme pour la sortie de son album Rebetissa. Mais c'est comme chaque jour, la critique qui entame nos agapes. Au menu du jour, deux expositions pour deux intentions majeures. Banlieue chérie au Palais de la Porte Dorée, commissariat général collectif nous immerge grâce aux artistes au cœur de l'histoire des banlieues pour dépasser les clichés. Et corps et âme à la Bourse de Commerce, commissariat général Emma Lavigne explore la représentation du corps dans l'art. Mais peut-on embrasser dans une exposition des sujets si pluriels? La réponse avec nos critiques du jour. Pour répondre à cette question et à bien d'autres, pour parcourir avec nous ces deux expositions, Stéphane Coréard, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes éditorialiste au Journal des Arts et Philippe Azoury, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes journaliste, critique et auteur, bienvenue à tous les deux.
Paris grandit, Paris grossit et s'étend chaque jour davantage. Et comme les places se font de plus en plus rares dans les limites de l'agglomération actuelle, la capitale mord de plus en plus sur la banlieue. Nous allons voir ensemble, en prenant un exemple, ce que pourra être Paris dans 10, 15 ou 20 ans. Cet exemple, nous l'avons trouvé à Créteil, dans une cité ultra-moderne, tellement moderne qu'elle n'est pas encore achevée. Les 20 000 habitants des 6 000 logements du Mont Mélie sont locataires ou copropriétaires. Ils ont le confort, mais sont-ils heureux? Quelle est la vie de ces déracinés, de ces habitants d'une ville champignon?
Pensez et regardez les banlieues sans idées reçues. Voilà le pari que se donnent les commissaires de cette exposition, unique en son genre, avec plus de 200 documents d'archives, peintures, installations, vidéos et témoignages. C'est une exploration de la périphérie via le regard des artistes qui nous est proposé. Un premier avis rapide, Stéphane, qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition?
Alors le titre déjà, Banlieue chérie, contraste assez avec Banlieue maudite qu'on voit sur beaucoup de chaînes de télévision par exemple et dans des médias. Pour autant, ça n'envoie pas une vision enjolivée d'une réalité urbaine et sociale qui souvent n'a rien de rose, mais plutôt à la proximité, la complicité, la tendresse même parfois avec lesquelles l'exposition les regarde avec une multiplicité de points de vue. Et à ce titre, l'exposition offre une vraie bouffée d'oxygène, je trouve, bienvenue en ce moment. Et le musée de l'histoire de l'immigration qui la programme est tout à fait dans son rôle. Alors bien sûr, l'exposition explore l'urbanisme, l'architecture, la sociologie, les luttes, les progrès, mais aussi les problèmes endémiques de ces territoires. Mais le fil conducteur, effectivement, vous l'avez dit Marie, c'est bien l'art. Comment les dessinateurs, les peintres, les photographes, les vidéastes, les écrivains aussi, les sculpteurs, ont représenté ces quartiers et leurs habitants. Et sur ce registre, je trouve qu'il y a des œuvres absolument formidables, notamment en matière d'art moderne et d'art contemporain, et même de vraies découvertes, peut-être un peu moins pour les artistes plus jeunes, on y reviendra.
Philippe, un premier regard.
C'est une chose que j'ai vue hier et qui ne me quitte plus. Ça fait 24 heures, comme ça, que je suis complètement habité par cette expo. Donc, ce serait quand même le signe qu'il se passe quelque chose et que c'est quand même assez fort. Je crois que c'est aussi votre cas, Marie, parce qu'on avait un peu parlé juste avant. Comme Stéphane, enfin, c'est-à-dire à la fois, je me suis attaché à ce titre parce que c'est banlieue au pluriel et il marque banlieue au pluriel, une diversité des points de vue, même un éclatement des points de vue, jusqu'au même, notifier le danger d'un enclavement, enfin quelque part aussi, de quelque chose par tribu. Mais je me suis aussi attaché au slogan qui est sous l'affiche, qui est l'expo qui recadre les clichés. On se dit bon, il y a vraiment du travail, ils sont pas couchés. C'est effectivement comment on arrive à dire autre chose sur les banlieues que ou le discours mortifère qu'on entend sur les chaînes info ou un discours angélique qui a été notamment à un moment celui des années 80 qui a pas non plus été n'a pas porté des fruits très très fort. C'est plutôt là, je trouve, ce qui réussit dans l'expo, c'est qu'ils arrivent à le dire de notre lieu.
Alors Stéphane, avant de parler justement du discours, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on y voit dans cette exposition, quel type d'objets sont proposés? Parce que sur les banlieues, ça semble pas évident comme ça à première vue. Qu'est-ce qu'on y voit?
Alors, comme je disais, il y a beaucoup de documents, il y a même parfois des choses assez intimes, des photos de famille, mais c'est quand même l'art qui domine. On est dans un musée, et donc l'exposition débute logiquement, Marie, aux alentours de 1850, quand la notion même de banlieue, de périphérie, avec l'industrialisation du pays, naît. Il y a des gravures à la fois charmantes et terrifiantes qui montrent Paris en mer attentionnée, dans une salle de bain entourée de ses garnements, qui sont, vous l'aurez deviné, les banlieues, qu'elle doit savonner avec énergie. Ensuite, on passe par un tout petit sas impressionniste en trois œuvres seulement, dont deux très beaux tableaux de Monet. Ça rétablit l'équilibre et ça montre que la banlieue au 19e siècle, c'est surtout les bords de Seine pour les Parisiens qui viennent prendre le bon air, batifoler, danser même. Il y a une très belle lithographie de Steinlen sur un bal. Et la banlieue, c'est la vie en fait. On pourrait dire, il y a un texte de Victor Hugo au mur d'ailleurs qui qualifie ainsi le passage de Paris à ses faubourgs. Fin des ornières, commencement des passions, fin du murmure divin, commencement de la rumeur humaine, de là un intérêt extraordinaire. Et c'est cet intérêt extraordinaire en fait qu'on va regarder un peu comme à travers des lunettes d'entomologiste, sans justement en essayant de dépasser les clichés, comme l'exposition le promet, et à mon avis y réussit en grande partie. Et on a plongé directement dans la zone. C'était une série de photos notamment qu'on avait vu à la défunte galerie Lumière des Roses à Montreuil, qui a été acquise par le musée. C'était cet espace non constructible autour de Paris qui a survécu jusqu'à ce qu'on y fasse le périphérique, qu'il fallait laisser vacant pour pouvoir défendre la ville. Et donc c'était soi-disant inconstructible, mais des propriétaires privés pouvaient quand même louer des parcelles à des gens qui ont établi des bidonvilles, des habitats précaires. Et on voit des photos formidables où derrière on construit les grands ensembles finalement qui vont abriter ces gens qui pour l'instant habitent dans les bidonvilles. C'est montré donc par des photos, mais c'est aussi par des tableaux. Il y a un tableau de Jörg Krayenbühl notamment qu'on voit aussi au Festival d'Arles pour lequel j'aurai mon coup de cœur. Et surtout deux magnifiques dessins de Boris Taslitsky qui nous plongent de l'extérieur, hein, c'est la cité Vercors à la Courneuve, vers l'intérieur avec des dessins plus contemporains de Neila Kermakshti qui montrent ses proches, les habitants, dans des dessins à l'encre que j'ai trouvé magnifiques, même bouleversants.
Dans cette description de Stéphane, Philippe, ce qu'on entend, c'est que les objets, les œuvres qui sont présentées viennent de gens qui ont habité dans ces banlieues. C'est pas un regard extérieur ou quand même un peu?
Ça n'a pas toujours été le cas. Et notamment, c'est intéressant sur ce que disait Stéphane. C'est-à-dire, quand on commence par la zone, les gens qui documentent la zone ne vivent pas dans la zone. Mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à quitter la zone. Et je pense à, il y a une seule photo de lui, un photographe et cinéaste qui s'appelle Georges Lacombe, qui a tourné aussi un film à la Lisière entre la fin des années 20, début des années 30, qui s'appelle La Zone. C'est quelqu'un qui a été hanté par ce territoire-là, qui n'a jamais cessé de retourner, de documenter ce territoire-là. Mais progressivement, dans les années 60, déjà, quelqu'un comme Monique Hervault, qui est aussi une photographe dont je ne connaissais pas du tout le travail, qui est absolument splendide, arrivait à documenter tout en essayant de rester quand même quelques années. C'est-à-dire d'avoir un regard à la fois extérieur et quand même de plus en plus à hauteur d'homme, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très, très intéressant ce qu'on voit sur toutes ces photos. Parce qu'il y a quand même un détail qui, moi, m'a complètement étonné. Ça vient notamment, il y a une photo de Gérald Bloncourt, que je ne connaissais pas non plus, qui est d'un bidonville à Champigny en 1965. C'est une famille d'immigrés portugais. Et on voit comment la famille tient ses mains. C'est-à-dire, ils savent pas quoi faire de leurs mains. C'est pas qu'ils ne sachent rien faire de leurs mains. Je ne sens pas qu'il y ait une association là-dessus d'idées trop rapide. Ils sont gênés par rapport à la représentation et ils tiennent ou leurs mains serrées les unes contre les autres comme quelqu'un qui prierait ou qui essaie de se défendre. Et ça, c'est partout, dans toutes les photos de toute cette période-là sur la zone et sur les premiers grands bâtiments comme ça créés après la guerre. Il y a cette gêne comme ça, Manuel. C'est-à-dire, il y a ce détail où on s'aperçoit que les mains se tiennent serrées, qui contraste beaucoup avec ce qu'on peut voir à la fin, c'est-à-dire que le moindre clip, le moindre film tourné depuis aujourd'hui une génération qui a grandi en banlieue, qui revendique son appartenance à leur lieu, au contraire, a une gestuelle qui nous désigne, qui nous regarde. C'est quasiment l'histoire de comment ces mains-là se sont déliées et même comment ces mains-là arrivent aujourd'hui à s'adresser à nous. Elles sont sans adresse. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les photos de Gérald Bloncourt, il y a cette photo-là et l'autre photo, c'est une boîte aux lettres, mais on a l'impression que rien n'est adressé à personne. C'est une génération, deux générations, trois générations à qui on a dit, vous allez venir vivre là, dormir là, vous allez travailler sans doute ailleurs, et vous allez fermer vos gueules. C'est quand même ça qu'on voit. Et c'est ça qui est mis en place aussi, qui est mis en espace dans l'exposition, c'est-à-dire que progressivement, on voit arriver une jeune génération, une plus jeune génération d'artistes qui vivent là, avec des confrontations des fois, parce qu'on voit le travail par exemple de Mathieu Pernot, qui n'y vit pas, mais qui fait un travail extraordinaire, les grands ensembles, ça reste, fait entre 2000 et 2006, ça reste un travail mais hallucinant. Enfin, vraiment sur la destruction, et surtout sur les gens qui sont de plus en plus fantomisés, on pourrait dire. Et comment on voit, vous aviez Stéphane Assité, Naila Kermakshti, Yana Fofana, Alexia Fiasco, Marvin Bonheur, Ibrahim Meitessi-Kelly, Aleiteia, qui a Corbeil, arrive à faire quelque chose qui va de l'archéologie jusqu'à PNL, avec une installation qui est assez incroyable. Il y a à partir de là déjà un regard différent, et il y a aussi une mise en espace, l'expo se met à changer, elle n'est plus aussi traditionnelle, elle met en espace finalement cet éclatement. et elle nous met dans la banlieue.
Stéphane, vous aviez, vous, une petite réserve sur justement cette partie plus contemporaine de l'expo. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Oui, c'est vrai que j'ai trouvé, pour ma part, à part Guillaume Mativet, un jeune artiste que je connaissais pas, qui montre des photos de graffiti sur une toile d'une poésie urbaine, j'ai trouvé très énigmatique. Effectivement, on pouvait pas s'empêcher souvent de penser à d'autres artistes. Donc, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, le commissariat, en termes purement artistiques, était pour moi un peu gênant. Par exemple, les photos de Marvin Bonheur dont vous avez parlé, à mon avis, ressemblent trop à des photos de Valérie Jouve, qui, elle, n'est pas dans l'exposition. Elle aurait pu y être. Enfin, on pense comme ça un petit peu à d'autres artistes. Mais pour, poursuivre ce que disait Philippe, ce que je trouve magnifique dans cette exposition, c'est qu'elle est parfaitement centrée. D'abord, c'est une exposition qui se
centrée
situe...
pour parler de banlieue.
Oui, mais parce que c'est justement parce que c'est une exposition qui a lieu déjà elle-même quasiment à la périphérie. On est vraiment à la lisière de Paris, à la Porte Dorée, et pour une fois, c'est exceptionnel dans les lieux d'art. Le public qui est à l'intérieur ressemble exactement au public qui est à l'extérieur. Donc, on est plongé en fait dans cette réalité. Les gens passent un moment exceptionnel. J'ai vu vraiment parce que les gens sont représentés. Je comprends bien ce que dit Philippe. Je pense que d'ailleurs, si ses mains sont, ils savent pas quoi faire de leurs mains, c'est parce que c'était des mains qui étaient vouées au travail. Voilà. Et en fait, ils sont là et ils savent pas quoi faire de leurs mains parce qu'ils ne savent que travailler avec leurs mains. Et après, on va arriver à une société de loisirs. Ça, c'est peut-être la deuxième partie de l'exposition qui nous plonge effectivement grâce à des œuvres monumentales, installations ou ensembles d'œuvres. Vraiment, ça donne toute la parole et même toute la place aux habitants de ces banlieues. Par exemple, il y a un passage qui est extrêmement bien réussi, c'est l'installation interactive d'Anne-Laure Boyer, qui s'appelle Déménagement, qu'elle a faite entre 2008 et 2012 et qu'elle réactive. Ça reconstitue un appartement vaste, puisque c'est à l'échelle de l'exposition, rempli de souvenirs, y compris des souvenirs de précédents appartements, dans lesquels s'installent les visiteurs, prennent des poses pour des photos dans une mise en abîme, qui est quasiment triple, puisqu'il y a l'ancien appartement, l'appartement rejoué, et les gens qui rejouent dans cet appartement. Et ça pose une question que j'ai trouvée magnifique et qui est en filigrane dans plusieurs documents et œuvres, c'est comment se projeter finalement dans une cellule de ces grands ensembles. C'est quoi la place qui reste en fait à l'individu ? Et il y a notamment un film assez glaçant où on voit un architecte, je crois, qui explique que tous les salons font la même taille. Alors parfois c'est un peu plus en longueur, un peu plus en largeur. Et puis il montre comment les gens se l'approprient. Ils arrivent avec leurs meubles, ils arrivent avec leurs souvenirs. Et finalement, comment est-ce que l'humain se standardise finalement dans cette utopie un peu absurde qui était en même temps une utopie évidemment généreuse, puisque une des stars de l'exposition, c'est les tours Ayot de Courbevoie qui sont peintes, recouvertes d'une mosaïque de nuages plutôt, et c'est d'ailleurs une très belle photo très efficace de l'affiche, où on voit à travers justement cet œil, un peu un clin d'œil sur les
tours Ayot. On dirait un hublot presque.
Oui, mais en forme un peu d'œil, parce qu'il y a, c'est des fenêtres qui ont une forme particulière. Et en fait, c'était effectivement un progrès, c'était objectivement un progrès social, mais comme on l'a entendu dans l'extrait que vous avez passé, ces cités, elles n'ont jamais été terminées, elles n'ont jamais été vraiment vivables, en fait. Et c'est ça qu'on voit dans aussi toute la partie engagement social qui n'est pas éludée dans l'exposition.
Philippe, je voulais revenir avec vous sur le titre de l'exposition. Vous l'avez dit, il est au pluriel. C'est, je crois, d'ailleurs une des intentions des commissaires, c'est-à-dire passer de la banlieue et de tout ce qu'on peut mettre derrière ce mot aux banlieues et à leur singularité. Est-ce que le pari est réussi, selon vous ?
Oui, je crois que le pari est vraiment réussi parce qu'on a cette approche qui est éclatée, qui est urbanistique, sociologique, politique, policière, artistique, intime, humaine, singulière, collective, médiatique aussi. Et c'est une des salles les plus réussies, qui est un bureau de presse. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je croyais que l'attaché de presse était là, en fait, pas du tout. On a à la fois énormément de journaux qui retracent à partir des années 70-80 ce qu'ont été les luttes, mais il y a un montage qui est assez... killer, je dirais, entre le traitement médiatique aujourd'hui de la banlieue, à la fois par des gens qui amènent un regard qui est très très très, plus que positif, en tout cas qui l'interroge de façon intelligente, et un traitement médiatique qui est plus généralisé, avec quelques chaînes, notamment Newsroom, Pascal Pro, pour ne pas le citer, mais c'est toujours à lui qu'on pense, et débitant des horreurs au kilomètre. Ce qui est quand même intéressant dans l'expo, quand même, c'est comment tout ça aujourd'hui reste le laboratoire, non seulement de l'art, de la culture, des cultures à venir, de la politique sociale, mais aussi d'une indignation. Et c'est ça qui est intéressant, notamment, c'est vraiment l'histoire des déracinés et la place que prend notamment la Palestine dans les dernières places, y compris sur ce que aujourd'hui, parce qu'un visiteur peut venir et peut dire s'il vient de la banlieue, ce qu'est sa banlieue de rêve, la question palestinienne est partout sur les murs à cet endroit-là. C'est intéressant.
Dernier mot de conclusion, Stéphane.
Je veux dire juste deux choses. On revoit la photographie de Mohamed Bourouissa, La République, de la série Périphérique de 2006, et on se rend compte à quel point ça a été une bombe atomique, cette œuvre, qui a vraiment à chaud, puisque c'était quelques mois après les événements de Clichy, avec la mort de Ziyad Bena et Bouna Traoré, que Mohamed Bourouissa fait cette photographie qui est comme la liberté guidant le peuple à Clichy. C'est extraordinaire. Et puis, je voudrais juste dire que l'exposition se termine par une magistrale, à mon avis, série de photographies de Stachy Kosakowski, qui en 1971, a posé son appareil 6 mètres avant Paris. Et donc on voit le panneau Paris 6 mètres avant, 6 mètres après. Et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est les mêmes gens, c'est la même ville en fait.
Banlieue chérie se visite au musée de l'immigration au palais de la Porte Dorée à Paris jusqu'au 17 août. Cette petite virgule coup de cœur. Stéphane, vous vouliez partager justement un coup de cœur pour le salon du dessin d'Arles.
Mais oui Marie, alléluia, bonne nouvelle. Je suis venu vous l'annoncer, les amoureux du dessin ont enfin leur festival. Depuis 2023, l'auteur, éditeur et dessinateur Frédéric Pajac et la mécène Vera Michelski offrent en effet aux Arlésiens, c'est le cas de le dire, puisque pour eux l'exposition est gratuite, et aux autres une grande fête d'un mois dédiée à tous les dessins, ou presque, et cette année même des dessins de cuisine, dans une formidable exposition concoctée par le chef de la Chassagnette Armand Arnal, qui mêle croquis de chef et de dégustateurs. En tout, c'est pas moins de 40 expositions qui envahissent toute la ville et ses bâtiments emblématiques. La plupart sont des monographies, certaines sont collectives, et dans chaque registre, les amateurs, les novices, mais aussi les plus exigeants, trouveront matière à éblouissement. On y va de l'art ancien, par exemple, il y a une sélection d'estampes japonaises éblouissantes venues de la Bibliothèque Nationale de France. De l'art moderne, il y a des paysages de coraux qui sont tout aussi magistraux, des aquarelles d'Henri Rivière, de voyages qui proviennent aussi de la BNF, c'est une vraie découverte. Un très bel ensemble de dessins de Zetkin. Il y a de l'art contemporain, évidemment, notamment toute une section qui est dévolue au paysage, au palais de l'archevêché, avec Pascal Emery, Jörg Rienbühl, qui est aussi à Banlieue Chérie, et Gundrun von Malsdan. Et puis, comme toujours, une grande partie aussi d'illustrations et de dessins d'humour, avec une sélection de chefs-d'œuvre à l'espace croisière, et une magistrale rétrospective consacrée à Folon, qui permet de réévaluer son œuvre aux Musées d'Arlatan. Mais la palme de l'année revient à l'unanimité. Marie, à l'étourdissante sélection de dessins de la collection d'Antoine de Galbert, encore lui, qui est présentée dans l'église Sainte-Anne. C'est un parcours sans faute de l'art moderne, notamment surréaliste, hein, Picabia, Magritte, Léonore Fini, jusqu'au plus contemporain, Stéphane Mandelbaum ou Jean-Michel Alberola. En passant par l'art brut, qui est ici représenté, comme on pouvait s'y attendre, de la part d'Antoine de Galbert, au plus haut niveau, avec une peinture au doigt de Louis Souter, un grand Henri Darger, un Anna Zemankova, et des chefs-d'œuvre aussi d'artistes singuliers comme Stoichka, Marian ou Rekicho. Le plaisir peut se prolonger à la maison, parce qu'il y a un catalogue passionnant, très détaillé, qui est publié aux Arts Dessinés, 37 euros pour 256 pages. Et puis il y a un livre dédié spécifiquement à la collection d'Antoine de Galbert, dans laquelle notre amie Corinne Rondeau signe, paraît-il, un texte sublime, mais on ne me l'a pas encore donné.
Mais on peut y aller jusqu'à quand?
Jusqu'au 12 mai.
Jusqu'au 12 mai, donc avant la photo, on va voir le dessin maintenant à Arles.
C'est la même chose et c'est peut-être encore mieux.
Ah, et signaler que le point de culture de Sophie-Catherine Gallet à 12h50 sera aussi consacré au Salon du dessin d'Arles avec une interview de Frédéric Pajac.